Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Dominique Parent, de la programmation culturelle à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir pour cette troisième rencontre la journaliste et animatrice Aline Apostolska, animatrice des Midis littéraires. Ces entretiens, en fait, se font une fois par mois, avec des écrivains marquants de la littérature québécoise. Ils nous permettent de mieux les connaître, de connaître leur travail, leurs sources d'inspiration, leurs rituels d'écriture, autant que les aspects de leur vie qui a fait naître le désir de création. Alors, sans plus tarder, je lui cède la parole pour qu'elle vous présente son invité, en fait, un homme que vous avez certainement, dont la voix vous est très, très familière et que vous aurez le plaisir de voir et d'entendre aujourd'hui. Alors, j'ai nommé le romancier, nouvelliste, chroniqueur Gilles Archambault. Je vous rappelle qu'il y aura une période de questions à la fin de l'entretien et que vous pouvez aussi le réentendre en balado-diffusion sur notre portail Internet. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones cellulaires si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle rencontre.
Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver pour notre maintenant célèbre, enfin j'ose le croire, rendez-vous mensuel qui est toujours convivial et instructif. Alors en préparant cette rencontre, je me suis dit que cette fois j'étais soit présomptueuse, soit inconsciente, soit plus probablement les deux, pour oser inviter un homme, un ex-collègue, qui a littéralement inventé et magnifié l'entrevue littéraire, longue et intérieure, telle que je tenterai de la pratiquer aujourd'hui avec lui, qui a souvent été un modèle pour moi à la radio. On peut encore l'entendre d'ailleurs tous les dimanches matins à l'émission de Joël Le Picot, faisant son billet hebdomadaire. Réalisateur et animateur de radio, amoureux de jazz et de littérature, il a également été critique pour Le Devoir et Livre d'ici, L'Actualité et d'autres revues. En plus d'avoir créé ce qui était la feu chaîne culturelle de Radio-Canada avec son ami Jean-Guy Pilon, il a également fondé une maison d'édition, les éditions du Sentier, avec Jacques Brault et François Ricard. Pendant 50 ans donc, il a été intimement et abondamment impliqué, je dirais même imbriqué, dans la trame de la littérature québécoise et francophone en général. Il a largement contribué à la faire connaître et à la faire rayonner. Passeur de la littérature, il reste avant tout un écrivain, et quel écrivain ? Depuis 1963, il a publié 16 romans, 6 recueils de nouvelles, un récit autobiographique, d'ailleurs bouleversant, des textes dramatiques et moult chroniques. Dans ses livres, il traite principalement de l'effet de la mémoire sur le présent et cultive comme des perles précieuses l'acuité du regard, le recul sur les êtres et les événements, la mélancolie, le doute, la lucidité incisive, mais jamais dénuée d'humour. Ainsi, lui qui se dit timide a utilisé la radio pour parler à des millions de personnes et le livre pour parler de l'essentiel, fuyant toujours le vain, le superficiel et l'ostentatoire. Homme d'une suprême discrétion, selon le titre de son premier roman, il a creusé un sillon profond en bâtissant une œuvre d'une exceptionnelle singularité. Lui qui s'est souvent moqué des prix littéraires en a reçu plusieurs. Son œuvre a été couronnée par le prix Athanase David en 1981. Il a reçu le prix du gouverneur général en 1987, ainsi que le prix honorifique Fleury-Mesplé du Salon du Livre de Montréal en 2005. Je vous remercie d'accueillir comme il le mérite M. Gilles Archambault. Alors, nous voici. Je disais que j'étais inconsciente ou présomptueuse de tenir ici votre place, en tout cas celle qui a longtemps été la vôtre et avec quelle singularité.
Ces paroles m'ont été du miel. Je sais que je ne les mérite pas, mais j'ai savouré chacune de vos louanges.
Je pense que vous les méritez un peu quand même.
Parce que si on n'est pas vaniteux, on n'écrit pas.
C'est ça, vous êtes vaniteux et moi, je suis présomptueuse. Alors, nous voilà bien partis. On va faire un duo de claquettes.
Un beau couple.
Un beau couple. Vous savez, Gilles Archambault, la première question ici est tout à fait mythique maintenant et elle consiste en ces quelques mots, nom, prénom, date de naissance.
Bon, Gilles Archambault, Archambault-Gilles, puisque vous avez dit nom en premier. Je suis né le 19 septembre 1933. J'ai donc 74 ans depuis un peu plus d'un mois, sans en être fier. C'est comme ça.
C'est comme ça. Et oui. Vous êtes né à Montréal. Qui étaient vos parents?
Je raconte dans un de mes immortels ouvrages...
Un après-midi de septembre.
Ce qui ont été les occasions de ma naissance. Ma mère, qui n'avait que 18 ans, mon père en avait 22. Lorsque je suis né, mes parents s'étaient mariés depuis à peu près un mois. Ça se passait donc dans le Montréal catholique des années 33. Et ma mère m'a avoué donc qu'elle était enceinte avant d'épouser mon père. Elle me l'a avoué. Je me demande d'ailleurs encore pourquoi, il y a une quinzaine d'années. La raison, je la connais un peu, c'est que j'avais eu l'outrecuidance de participer à une émission de radio qui s'appelait... J'en ai oublié le titre, mais il s'agissait de parler de ses parents. Et je me posais la question, est-ce que mon père m'aimait? Et ma mère m'a dit, ton père t'aimait puisqu'il t'a accepté. Alors, je me pose des questions maintenant. Tout ce qui a fait ma démarche d'être humain et d'écrivain aussi repose peut-être sur ce fait-là. Ma mère a essayé, et c'est pas moi, je ne la blâme surtout pas, mais elle a essayé de se faire avorter plusieurs fois, avec les moyens qui étaient celles d'une pauvre jeune fille de 18 ans dans un milieu ouvrier. À cette époque-là, en descendant les escaliers le plus rapidement possible, en faisant des exercices, elle a consulté deux fois un médecin qui a refusé en lui disant « Écoute, tu es trop belle, tu vas avoir un enfant, garde-le », ainsi de suite. Mm-hmm. Moi qui ai toujours, et c'est ça qui est le moteur de mon écriture, je pense, moi qui ai toujours été un peu ému, bouleversé par l'absurde de la vie, je me trouvais en présence à je ne sais quel âge, mettons 57, 58 ans, devant... l'absurdité, si vous voulez, l'absurde plus poussé encore. C'est que toute naissance, en réalité, c'est un hasard.
Oui.
Mais là, on avait tout fait pour me détruire. Et la personne qui avait essayé de faire ça était celle que j'aimais le plus au monde. Et je ne l'en ai aimé que davantage à la suite de ça.
C'est rare qu'on commence cette...
Oui. Mais je vais vous dire autre chose par la suite.
J'espère bien. J'ai posé une seule question jusqu'à présent. Imaginez tout ce que vous allez me dire après. Non, j'allais vous dire, c'est très rare qu'on commence ces entrevues par des confidences, mais figurez-vous que moi aussi, je suis née parce que ma mère n'a pas réussi à avorter. C'est bizarre, hein? Ça fait vraiment de nous un drôle de couple.
Oui.
Le couple d'écrivains, en plus.
Je pensais à ma mère qui avouait ça et qui, combien d'années après, plus de 50 ans après,
oui.
voulait mon absolution. C'est ça qui est grave. C'est qu'elle me disait, tu sais, je n'étais pas une mauvaise fille, tu sais, j'aimais ton père, et puis ton père était découragé à ce moment-là, j'ai accepté. Elle demandait mon absolution, et c'est ça qui m'a bouleversé.
Alors, je comprends très bien. En même temps, c'est ça, on avorte un fœtus, ensuite on a affaire à un enfant, et là, bien sûr, ça n'empêche qu'on aime cet enfant, même si avant ça, ce qu'elle cherchait à fuir, c'était plutôt la honte ou la difficulté de sa situation, et non pas vous.
Si je vous raconte ça tout de suite, c'est que ça explique
mon comportement d'enfant. Je comprends très bien, c'est l'entrée dans la vie. J'ai lu ce livre d'ailleurs et je comprends très bien que vous commenciez ainsi. Vous dites d'ailleurs aussi dans ce livre-là que vous étiez d'ailleurs un enfant d'une très grande sensibilité. Vous dites « je pleurais à peu près constamment, je me sentais toujours visée et j'aimais beaucoup trop ma mère ».
Oui, c'est-à-dire que là je dois vous révéler un autre aspect de ma vie intime, c'est que j'ai toujours eu l'impression, enfant, que mon père avait préféré ma sœur, qui est née un an après moi, mm-hmm. et qui est morte à 2 ans et demi. J'explique maintenant, ou j'essaie d'expliquer, peut-être en me trompant, que mon père m'a presque fait porter l'odieux d'une mort dans laquelle, évidemment, je n'étais pour rien. Ma sœur est morte d'une maladie naturelle. Et elle était ce genre d'enfant que mon père aimait. Ce genre d'enfant, vous savez, que vous pouvez lancer dans les airs, plonger dans
joyeuse.
L'eau.
Joyeuse.
Oui, joyeuse et tout. Joyeuse. Alors que moi, non, j'étais renfermé.
Introverti
complètement.
Mais dès l'origine.
Oui, dès l'origine. Et c'est pas étonnant que j'ai aimé ma mère plus que mon père. Et ce n'était pas de sa faute. Il était l'homme qu'il était. Il aurait souhaité plus tard que j'aime les travaux manuels comme lui, que je m'intéresse aux choses qu'il aimait. Moi, non, j'étais un introverti.
Vous avez dit que vous n'étiez pas bien en la présence de votre père. Vous ne vous sentiez pas bien en sa présence.
J'ai toujours été tout à fait mal à l'aise devant lui. Quand nous allions à la campagne, mes parents étaient ouvriers, encore une fois, mais ils louaient un chalet et au bout de quelques années, ils se sont fait bâtir un chalet dans le fond des bois. Ça, c'est vrai, c'était un pauvre chalet, tout ça. Et ma grande joie, c'était lorsqu'ils partaient le dimanche soir. Parce que j'étais seul avec ma mère, l'été.
Oui. Mais parlez-moi donc justement de votre milieu de naissance. Vous habitiez dans quel quartier?
À Montréal, dans le sud-ouest, dans un coin qui s'appelle Côte-Saint-Paul, la Côte-Saint-Paul. C'est tout à côté de Verdun. Mm-hmm. Encore une fois, c'est un milieu ouvrier. Mon père, qui était fonctionnaire après, il travaillait pour la ville de Montréal et c'était un col blanc, on peut dire. Et nous passions non pas pour des riches, mais pour des gens à l'aise. À l'école où j'allais, il arrivait fréquemment qu'un élève dise « je ne suis pas venu à l'école vendredi parce que je n'avais pas de chaussures ». Les enfants ne se brossaient pas les dents. C'était en 1939-40, là, n'oubliez pas. Et donc, j'étais placé dans la situation où, dans ce milieu ouvrier, fils de petit fonctionnaire, j'étais parmi les choyés.
Mais on est toujours le riche de quelqu'un.
Oui. Et ça faisait tout à fait mon affaire, au fond, parce que j'avais ce complexe de culpabilité. Plus tard, à l'école, le sort a fait que j'étais un premier de classe. J'ai toujours cherché à être ami ou à me faire accepter des plus lourdeaux, des plus bêtes, là, des plus agressifs.
Pourquoi?
Besoin de me faire accepter.
Alors que vous étiez un enfant, comme vous l'avez dit, sensible, et puis là, vous dites que vous étiez un premier de classe, ça veut dire que vous aimiez l'école. Vous étiez un enfant qui aimait aller à l'école?
Pas tellement. J'ai jamais tellement aimé l'école. J'aimais, par exemple, si un instituteur, parce qu'il y avait en même temps des frères des écoles chrétiennes, punissait l'un de ces méchants, l'un de ces lourdeaux dont je parlais tout à l'heure, je me sentais presque... Je voulais protester, je voulais dire ne le battez pas, ne lui donnez pas des gifles, vous n'avez pas le droit, et ainsi de suite.
Est-ce que vous avez eu d'autres frères et sœurs?
Chez nous, c'est une famille étrange à plusieurs titres. Si tous les enfants avaient vécu, il y aurait eu 8 enfants. Il n'en est survécu que 3. Moi, 10 ans après, une sœur qui vit toujours, et 10 ans après, donc 20 ans après moi, un frère. Les autres sont tous morts à la naissance, sauf cette sœur-là, morte à 2 ans et demi.
Oui, ça fait une drôle d'ambiance dans la maison, non?
Oui. L'effet d'une grande solitude.
Alors,
je ne jouais pas, moi, avec les autres enfants quand j'avais 4 ou 5 ans. Je restais avec ma mère.
C'est exactement la question que j'allais vous poser. Qu'en était-il de votre socialisation?
À ce moment-là, nul. Je me souviens, on habitait à l'étage, ici on dit 2e étage, bon, d'un triplex. Et les fois où je descendais de chez moi pour rencontrer les autres, la plupart du temps, je revenais en pleurant. Je me souviens que ma mère m'avait acheté une balle pour jouer à la balle molle, mais sûrement de mauvaise qualité. Les ceux qui devaient être mes amis, qui étaient plus vieux que moi, au bout d'à peu près une demi-heure, avaient réussi à détruire cette balle. Et je me vois très bien remonter chez moi avec ce cadeau qui n'en était plus un, qui avait été détruit. Mais en même temps, on ne m'avait même pas laissé jouer. J'assistais. Un peu plus tard, juste pour... Hein, un peu plus tard, vers à peu près 6 ans, 7 ans, je me souviens d'une fête organisée par les enfants du coin, où on m'avait refusé l'entrée. Je ne me souviens plus pour quelle raison. Certainement pas parce que j'avais fait un mauvais coup. Bon Dieu, j'en faisais pas.
Carson McCullers a écrit que, en fait, elle était écrivaine parce que, depuis toujours, elle cherchait sa place. Est-ce que, d'une certaine façon, ça fait écho chez vous?
C'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi. Quand j'ai décidé de façon sérieuse de devenir écrivain, bien, sérieuse, peut-être pas, j'avais 15, 16 ou 17 ans à peu près, je me sentais, à part des autres, je souffrais d'acné. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué à l'époque. Et mes parents, des deux côtés, avaient des familles nombreuses. Il y avait donc beaucoup d'occasions de rencontrer des oncles et des tantes. Et très tôt, j'ai fui ce monde-là. Pas parce que je le méprisais, pas du tout. C'est que ce genre de fréquentation-là n'était pas la mienne. Moi, j'avais besoin de solitude, j'avais besoin de lire. Et,
ah, mais oui. Ça, on n'est pas rendu à l'adolescence, mais on va y arriver, effectivement.
Oui, oui.
La dernière question que je voulais poser par rapport à la petite enfance, vous avez quand même dit que vous étiez premier de classe, donc quand même, quelque chose vous intéressait. Si ce n'était la socialisation, peut-être quand même la découverte du monde, des livres, peut-être. À quel moment est-ce que vous vous intéressez aux livres et quels sont les premiers livres que vous lisez?
Bon, curieusement, enfant, je n'ai jamais lu, par exemple, tout Jules Verne. Je n'ai jamais lu les ouvrages qu'on nous recommandait, sauf certains. Il y avait une collection d'inspiration catholique, une maison française dont j'ai oublié le nom, une collection qui s'appelait « Signes de piste ». Ça s'adressait à la jeunesse catholique française, et j'ai aimé lire ça. Mais sinon, quand je me suis mis à lire, c'était les pires choses. Les romans policiers mal écrits, qui se vendaient ici 5 cents au début et après ça 10 cents, c'était des fascicules de 32 pages. J'ai appris par la suite, longtemps après, que des écrivains en avaient fait pour gagner. Yves Thériault, par exemple, en a fait beaucoup. J'avais donc ce qu'on appelle de très, très mauvaises lectures, mais en même temps, ça satisfaisait à mon besoin de fiction, d'un autre monde.
Ben oui, d'aventure, j'allais dire.
Et j'aimais le cinéma aussi, oui. Le genre de cinéma qu'on voyait dans les salles paroissiales, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas entrer dans un cinéma avant d'avoir 16 ans. Je suis entré à 14 parce que j'étais assez costaud, donc j'avais pas de...
Mais là, on est dans les années 40 à Montréal. Oui. L'ambiance est difficile. On est en pleine noirceur.
Oui, vous savez, quand on parle devant moi de la grande noirceur, j'en prends et j'en laisse. Moi, je me suis mis à lire Voltaire à 17 ans, même si, ayant quitté ce qu'on appelait, là, je vais franchir des étapes, mais on y reviendra.
On reviendra.
Oui, ce qu'on appelait le cours supérieur.
Oui.
Je vais vous dire après pourquoi j'avais pris ça. En tout cas, j'étais entré dans le cours classique, mais pour reprendre les années perdues du cours classique que je n'avais pas faites, je suis entré dans un séminaire. Ça s'appelait Séminaire Marie-Médiatrice. Ça s'adressait soit à des gens qui voulaient devenir prêtres, mais surtout à des laissés pour compte, ceux qui avaient été renvoyés de différents cours classiques, ou ceux qui, comme moi, décidaient de faire, sur le tard, de faire le cours classique.
Mais effectivement, j'avais noté ce nom en pensant qu'il était prédestiné pour le médiateur que vous êtes devenu, ce mari médiatrice.
Ah, façon... Ça n'a rien à voir. Et dès ce moment-là, j'avais pas du tout, mais pas du tout l'intention de devenir prêtre, même que j'avais développé une façon d'entrer au collège pour éviter le père supérieur qui essayait de nous convaincre.
Ah oui. Et puis vous êtes devenu, vous le dites par la suite, assez anticlérical. Mais là, on est à l'adolescence, période que vous nommez compliquée, assez pudiquement, vous sentant peu intégré dans le monde et évidemment, vous citez L'étranger de Camus à cette époque-là, une certaine reconnaissance, mais votre préférence va à Balzac.
Oui.
Et à Stendhal, évidemment.
À Stendhal. Stendhal, c'est arrivé par la suite. Balzac, c'est simple, c'est qu'il y a eu un événement à Montréal. J'en ai parlé souvent, mais tous les gens ne me suivent pas.
Non, là, vous m'en parlez à moi, c'est unique.
Et ils ont bien raison, d'ailleurs. Il y a eu, en 1949, à Montréal, des gens autour du libraire Henri Tranquille qui ont décidé, pour 1950, de fêter le centenaire de la mort de Balzac. Mm. Et l'Église s'était opposée. Il y avait eu dans les journaux des querelles et tout. Et je me suis dit à ce moment-là, si on fait un tel tintouin pour un écrivain, c'est probablement que la littérature, ça vaut la peine. Et il y avait en même temps mon empêchement à vivre. Mm. Mais Balzac ne pouvait pas répondre à ça. Il a fini par répondre quand j'ai lu le fameux « À nous deux, Paris », vous savez, « Conquérir Paris, faire sa place dans le monde ». Vous avez donc devant vous quelqu'un qui, à 16-17 ans, se trouvait exclu, qui s'excluait lui-même, qui n'était heureux nulle part, qui était d'une tristesse à peu près totale, et qui se dit « L'écriture va me sortir de ça ». J'ai jamais été assez naïf pour penser que je deviendrais célèbre comme le personnage de Balzac. Je me suis dit, je vais conquérir quelque chose. Mm. Mais ce que je voulais conquérir, c'était tout simplement ma place dans le monde.
Oui, mais ce que je note dans ce que vous dites, c'est cet aspect rebelle quand même, chez quelqu'un de très introverti, de très sensible, d'attaché à l'intériorité, à sa mère, quand même une dose de rébellion importante, parce que vous faites référence au rouge et au noir, quand même, Sorel, c'est aussi une sorte d'aventurier qui part à la conquête du monde.
Mais oui, vous avez raison, mais juste une petite remarque à propos du rouge et le noir. Mm. C'est pas nécessairement Julien Sorel qui me passionnait. Mm. C'était bien plutôt l'humour et l'ironie de Stendhal. Mm. C'était l'écriture dès ce moment-là. Et j'aimais beaucoup la Sanseverina.
Ah oui. Cette ironie et cet humour que vous avez pris pour vous.
Oui. Ça, c'était fait pour moi. Parce que très, très tôt, l'idée de conquête, là, je l'ai abandonnée. Ce que je voulais, j'avais cette obsession, ce côté têtu de quelqu'un qui aurait dit « on ne va pas m'avoir ».
Mais Gilles Archambault, à quel moment est-ce que vous construisez cet esprit, je dirais, de contradiction, de controverse, alors que vous vous décrivez comme quelqu'un de solitaire et vous dites « j'étais celui qui était derrière la porte et qui n'était pas toujours mécontent d'être là », comme si cela me donnait une vision privilégiée du monde. Et en même temps, dans cette solitude, vous expliquez que vous bâtissez un réel esprit rebelle, avec une acuité, une capacité aussi de critiquer, qu'on va vous connaître par la suite.
Oui, ce côté derrière la porte a toujours été le mien. C'est-à-dire que, par exemple, l'idéal pour moi n'est pas que quelqu'un, même un grand critique, là, qui me dirait « vous avez écrit un livre merveilleux, un chef-d'œuvre, tout ça ». Ce n'est pas ça. C'est être derrière la porte et l'entendre dire à quelqu'un d'autre « ce livre est bon ».
Ah, c'est pour ça que vous étiez tellement heureux derrière le rideau.
Derrière la porte, ben oui. Ça en est fallu de peu pour que je reste là.
Ah ben, je serais allé vous chercher. Hein.
Oui, oui. Non, je sais. Et il y a une période aussi qui a compté pour moi. C'est quand j'ai quitté cette période d'enfant triste que je suis demeuré au fond. Ça a été pour avoir des activités sportives.
Ah oui.
Vous ne saviez peut-être pas que j'ai été un joueur de balle molle qui jouait pour 3 équipes en même temps.
Ben, c'est incroyable. Vous nous avez raconté tout à l'heure le premier épisode de balle molle qui n'était pas très glorieux,
Pendant deux ou trois ans, oui, on me recherchait, donc j'étais heureux de faire ça. Mais arrivait, et surtout la dernière année, je me souviens très bien de ça, un moment qui, pour moi, a été, non pas terrible, le mot est fort, mais qui, je pense, me décrit bien. À la suite de la saison, il y avait eu une sorte de bal, une soirée et tout. Je n'étais pas allé. Hein. Pas plus que plusieurs années plus tard, je suis allé rencontrer le président de Radio-Canada qui me donnait ce cadeau que l'on donne aux gens qui prennent leur retraite. Tout ce qui est cérémonie officielle m'offusque. Les quelques fois où j'ai eu un prix, je suis allé le chercher parce que je trouve que c'est une politesse. Mais je ne suis pas heureux dans ce genre de situation-là.
Mais là, donc, on est toujours dans votre adolescence où vous dites effectivement souffrir d'acné dans la littérature, la lecture des livres et tout ça. Mais à quoi vous destinez-vous ? Est-ce que déjà vous avez conscience de ce que vous voulez faire ?
Quand je décide de passer de ce cours supérieur, qui n'avait de supérieur que le nom, c'est l'équivalent de la 11e année à l'époque, et que je décide de faire les études qu'on appelait les études classiques, c'est tout simplement que j'avais découvert la littérature. Mm-hmm. Très, très tôt, d'ailleurs, après avoir lu un livre de critique, je ne sais plus de quel critique il s'agit, on disait de l'école normale supérieure. Normal Sup à Paris.
Bien sûr.
Bon, j'ai voulu... À ce moment-là, je me disais, j'avais le rêve un peu fou d'aller faire mes études là.
Ah oui.
Et j'ai fait d'autres démarches par la suite, que je vais vous raconter tout à l'heure, si
on en a l'occasion. Ah oui, je sais à quel point vous aimez Paris, vous en parlez.
Ouais, ouais, enfin, non, oui, oui, enfin, je ne connaissais pas à ce moment-là. Je suis allé tardivement à Paris, mais là, je saute des étapes.
Oui. Bon. Et donc, vous allez à ce cours classique, vous découvrez la littérature et déjà, vous avez l'idée de rentrer en littérature.
Oui, je l'ai déjà en entrant. Hein, mais si, par exemple, le professeur, qui était un prêtre, nous dit « faites une composition de 2 pages », moi, je faisais 8 pages. Parce que je me disais « c'est ça qui m'intéressait ». J'avais donc l'idée de devenir écrivain plus tard. Quand les études ont été terminées, après ce cours classique, je suis allé en lettres à l'Université de Montréal, me disant, étant assez intelligent pour me dire, et craignant, étant trop timide peut-être pour me dire, je vais pouvoir gagner ma vie en écrivant, je me suis dit, il me faut un second métier. Le second métier, c'était l'enseignement, dans ma tête. Mais j'étais à ce moment-là encore trop timide pour enseigner. C'est pour ça que je suis entré à Radio-Canada. J'ai eu la chance d'entrer par une porte vraiment de traverse, là.
Ah oui, alors justement, ça, c'est une aventure extraordinaire. Bien sûr, on vous connaît comme un homme de radio,
Radio-Canada,
autant que comme un écrivain.
Ça a changé ma vie. Je pèse mes mots.
Oui.
Ce n'était pas la Radio-Canada de maintenant, je m'empresse de
non,
dire.
Non, on va en parler aussi.
Bon.
Mais vous rentrez à 25 ans.
Oui.
Ce qu'on appelait le service des textes
qui
à l'époque.
Très mauvais service.
Ah.
C'était un service qui avait été créé. On est dans le Québec, donc c'est en
on est à la fin des années 50, là.
Oui. Il y a encore cet esprit de duplessisme parce qu'il y avait eu un scandale à Radio-Canada à la suite de la diffusion d'un téléthéâtre de Julien Green. Pourtant, c'est pas sad, hein.
Non.
C'était
pas exactement.
Je pense que c'était Moïra, mais je n'oserais pas le dire. En tout cas, à la suite de ça, il y avait eu tellement de protestations que la direction de Radio-Canada avait décidé de créer un service qui lirait les textes avant leur diffusion. Et on avait demandé à un écrivain, Robert Charbonneau, un excellent romancier d'ailleurs pour l'époque, en tout cas, de le créer. Et je suis ce service-là donc lisait les textes et faisait les contrats des écrivains. Il m'a pas fallu 2 mois pour me rendre compte que les textes que l'on lisait étaient des textes déjà acceptés et déjà diffusés dans certains cas. C'était donc, j'ai dit dans un texte que ça ressemblait beaucoup, cet emploi du temps, au désert des Tartares de Buzzati. Vous savez, ces soldats qui attendent la guerre.
On attend
la guerre qui
jamais.
Ne vient jamais. Ouais. Donc, moi, je me suis aperçu rapidement que je perdais mon temps. Mais j'avais connu ce que c'est que de ne pas avoir de travail. Je me dis, au moins, je suis dans Radio-Canada. Pour compliquer ma vie, au bout de 8 mois, on m'a nommé directeur adjoint. Ce qui veut dire que mon traitement était plus élevé. Il était le double du traitement que j'avais connu 1 an auparavant. Je m'étais marié.
Ça allait vite à cette époque-là?
Oui. Oui, mais vous savez, le double de 1, c'est 2.
Ah oui! bien sûr!
Donc, je venais de me marier, on avait un enfant, on s'est acheté une maison. Tout ça a fait que je suis demeuré à peu près 5 ans dans ce service qui n'existait pas, service fantôme, pour devenir réalisateur. Je voulais tellement devenir réalisateur que j'ai accepté d'être réalisateur d'émissions syndicales et économiques. moi qui ne connaissais absolument rien dans le domaine. Voulez-vous que je vous parle de ça ou d'autre chose?
Je voulais parler de cette date extraordinaire dans votre vie, qui est 1963, où vous réalisez votre première émission et en même temps, la même année, vous publiez votre premier roman. Alors, oui. C'est vraiment une année, vous avez 30 ans. C'est oui. Quand même
oui.
Bien sûr.
J'avais, manuscrit qui a été publié, L'immortelle
suprême discrétion.
C'est un très beau titre, oui. Je suis très fier de moi pour ça. Ce premier roman avait été précédé d'un autre et demi, si vous voulez, que j'avais soumis à un petit éditeur qui n'en avait pas voulu. Et ça, c'était à peu près la demi dont je vous parlais. C'était des éditions d'Orphée, petite maison, mais qui faisait des très beaux livres. Ferron a publié là, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Bon. Et un manuscrit de roman que j'avais envoyé au concours du Cercle du Livre de France, et on n'avait pas accepté, sûrement avec raison. J'avais peut-être 25 ans à l'époque, c'était pas très bon.
Mais ça veut dire que quand même, vous étiez à Radio-Canada, vous étiez directeur adjoint, et puis en même temps, vous poursuivez, vous êtes père de famille, vous êtes marié, et puis vous poursuivez votre ambition qui était d'être écrivain, et en même temps, vous devenez réalisateur. C'est quand même extrêmement, obstiné, mais surtout actif pour quelqu'un qui avait passé un grand temps de son enfance derrière la porte et derrière le rideau.
J'ai toujours été en même temps actif. Mm-hmm. Pour vous donner une idée, je n'avais pas, moi, à travailler pour gagner mes études, selon l'expression consacrée. Or, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans. La raison, c'est que je ne voulais pas dépendre de mon père. Je voulais être indépendant. Ça traduit donc une certaine... je pense que je peux me donner ça. Une certaine force de caractère.
Ah, certainement.
J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui geignent, même si il m'arrive de le faire. Mais quand je reçois un coup dur, moi, dès le lendemain, c'est à peu près réglé. C'est-à-dire qu'il me semble tout le temps, même si je me dis que ça ne sert à rien, que la vie, très souvent, ne signifie rien, mais il faut faire quelque chose. Il faut s'occuper. Il faut aller de l'avant. J'ai une faculté de contemplation, mais elle est limitée. Il faut que je bouge.
C'est pour ça que
je travaille à l'âge que j'ai, encore.
Bien bon. Sûr. Est-ce que c'est une sorte de force qui est donnée justement par l'absence d'optimisme?
Je ne sais pas. Quant à cette tristesse, d'après moi, qui est innée en moi, elle va avec aussi la faculté que je crois avoir pour aimer plus qu'il n'est raisonnable, peut-être, les femmes, les enfants, les animaux.
La vie en général.
Les chats, par exemple.
Mais c'est une tristesse qui est compensée aussi immédiatement par l'humour, par la joie, par le sens de la dérision, le sens du jeu.
Oui,
donc, il y a des grands contrastes.
Oui, l'humour fait partie vraiment de mon monde. L'ironie me fait peur parce que je sais que j'ai blessé des gens et que j'en blesse encore.
C'est destructeur, l'ironie.
Oui, mais ce n'est pas un beau sentiment. J'essaie donc de ne pas céder. Mais j'ai une partie de ma faculté d'écrire, si vous voulez, qui serait très Charlie Hebdo. Vous voyez, je pourrais sortir des méchancetés presque à la tonne, mais je ne veux pas faire ça parce que j'aime les gens et je suis du côté des faibles. Mais j'aime les faibles qui luttent. Et je suis un peu désarçonné devant des gens qui sont faibles et qui n'ont pas cette force. Quelqu'un très près de moi actuellement, mais je ne veux pas vous dire qui, est en détresse. Eh bien, on se sent absolument impuissant, et ça, c'est un sentiment qui est destructeur. C'est le seul que je peux connaître. Quand ça me touche, moi, je me dis non. Je me dis, tu as 74 ans, tu vis encore, il y a encore de belles choses qui t'attendent, il y en a de moins belles aussi, mais ne te plains de rien. Il y a toujours des gens... qui sont pires que toi.
Mais vous savez très bien que le slogan de Charlie Hebdo était « bête et méchant ». Et
oui.
Donc, c'est vrai que pour être méchant, il faut faire abstraction et de l'humanisme et de l'élégance. Et ce n'est pas votre cas.
J'essaie, en tout cas, j'essaie. Évidemment, là, devant la bêtise, vous savez, Valérie, là, la bêtise, Monsieur Teste, la bêtise n'est pas mon fort. J'essaie que ce soit ma devise, mais bien sûr, comme tout le monde, je suis bête 5 fois par jour. Bon.
Ben, certains moins que d'autres, quand même. Alors, je voudrais... On va parler abondamment de Radio-Canada, en tout cas, j'espère, parce que finalement, on a travaillé côte à côte sans beaucoup se côtoyer quelques années, mais on n'a jamais vraiment parlé de la radio. Et surtout, vous êtes une mémoire de cette radio et de tout ce parcours. Et on ne s'en rend pas forcément compte aujourd'hui quand on voit ce qu'est Radio-Canada aujourd'hui. Donc, je vais parler de ça longuement avec vous. Mais dites-moi, à cette époque-là, on est rendu à 30 ans, vous êtes installé, vous devenez réalisateur, vous êtes déjà un homme de radio, amoureux de jazz et de littérature, vous êtes père de famille. Quels sont vos rapports avec votre famille à ce moment-là? Est-ce que votre père vous voit autrement que comme vous voyez dans votre enfance et votre adolescence?
Vous voyez, mon père est mort en 1965, à ce moment-là.
Deux ans après que vous soyez...
Oui, j'ai donc 32 ans. Il y avait encore, de ma part, devant lui, un malaise. Quand mes parents venaient chez moi, et la raison pour laquelle on avait acheté une maison qui était dans le nord de Montréal, c'était pour être loin de mes parents, tout en étant à l'intérieur de Montréal, parce que mes parents avaient cette vilaine habitude de venir sans s'annoncer. Et quand je voyais mon père, très souvent, je souhaitais qu'il ne soit pas là. C'est pour ça que j'ai eu cette parole cruelle. Quand il est mort à 65 ans, je disais à ma femme, au fond, c'est le plus beau jour de ma vie. Je ne le crois plus maintenant. Et à ce moment-là, je ne lui en voulais plus, mais ça me libérait.
Est-ce que lui, il est mort avec la satisfaction que son fils aîné avait tout de même trouvé sa place?
Je n'en sais rien, parce que mon père ne me parlait pas, comme c'était souvent le cas à l'époque. Mon père ne me parlait pas, c'est à ma mère que je parlais. Et quand on va un bref retour vers l'enfance, quand mon père et ma mère se boudaient, ça arrive dans des couples, le retour vers ma mère, de la part de mon père, passait par moi. Il me tendait un billet que je donnais à ma mère.
Ah.
Le billet disait probablement nous allons aller chez, Germaine, sœur de ma mère. Parce que mes parents sortaient beaucoup, mais n'allaient qu'à l'intérieur de la famille. D'où, si vous voulez, ma décision dès l'enfance de me tenir loin. À 6 ans, vous aimez voir des oncles et des tantes, mais pas à 12, 13 ans. Faire poser les mêmes questions idiotes, vous savez, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ainsi de suite.
Et que fais-tu? Tu lis toute la journée.
Oui, c'est pas bon pour tes yeux, ainsi de suite. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Bon, allez, oui.
Mais quand même, vous avez publié un roman à cette époque-là, et votre mère, alors quel est son rapport avec son fils devenu écrivain?
Elle a été heureuse pour moi. Mon père ne m'en a pas parlé, et ça ne m'étonnait pas. Je savais qu'il ne le lirait pas, puisqu'il ne lisait jamais. Mais mon père avait toujours regretté que je ne devienne pas comptable, parce que lui avait travaillé dans ce domaine-là, à la ville de Montréal. Et dans l'année pendant laquelle je n'avais pas de travail, après avoir terminé mes études, il m'avait répété plusieurs fois, « Tu vois, si tu avais fait tes études, tu travaillerais maintenant. »
Si tu n'avais pas perdu ton temps à écrire, voyons donc.
Il ne savait même pas que j'écrivais, je pense, je lisais, probablement. Donc, ma mère, je pense qu'elle était heureuse. Je sais que quand ma mère est morte, il y avait dans son appartement, je ne l'avais jamais remarqué avant, l'affiche qu'on avait faite pour le prix David que j'avais eu. Bon. Donc, mon premier geste, quand on a enlever les meubles de l'appartement parce qu'elle était morte. Ça a été déchiré, cette affiche-là, parce que c'était comme un hommage que je ne méritais pas, selon moi. C'est-à-dire que j'étais mal à l'aise par rapport à cet hommage-là. Mais ma mère, en même temps, tout en étant heureuse que j'écrive, était une personne qui avait un franc-parler. Je me souviens qu'elle m'a dit, j'avais écrit une dramatique pour la radio de Radio-Canada. Elle m'a dit, j'écoutais ta dramatique, j'étais avec tes tantes, on jouait aux cartes, et au bout de 10 minutes, on l'a fermée parce que c'était trop, ça criait trop. Donc, vous voyez, le soutien n'était pas fort, mais je n'ai jamais été blessé de ça. Moi, pourvu qu'on ne m'insulte pas parce que j'écris, tout va. À l'inverse, je suis embêté devant les compliments qu'on peut me faire. Idéalement, moi, quand je publie un livre, j'aimerais quitter le pays pour 6 mois.
Oui, je comprends. Mais c'est toujours une sorte de malentendu, une publication. On ne sait jamais vraiment... Mais le reste de votre famille, alors? Quel rapport ils ont avec Gilles Archambault, devenu écrivain, alors?
Bon, j'ai ma sœur, qui a 10 ans de moins que moi, comme je vous l'ai dit, qui a travaillé comme rédactrice à l'Office du film et dans des trucs comme ça. Donc, pour dire brièvement, elle est pour. Mon frère, qui est fonctionnaire et qui a donc 44 ans, est fonctionnaire, il lit. Je ne pense pas qu'il soit impressionné outre mesure. C'est bien mieux comme ça. C'est-à-dire que j'aime pas cette façon d'idéaliser un écrivain. Ça va. Tout va à ce niveau-là. Je n'ai vraiment pas à me plaindre. Il est bien évident que j'aurais aimé, quand j'ai eu le prix David, que mon père soit vivant pour, au fond, lui prouver, parce que je lui aurais dit... lui, il aurait été impressionné parce qu'à ce moment-là, on donnait 15 000 $. La somme d'argent... au moins, l'aurait impressionné, il aurait eu l'impression que c'est important.
Et pareil pour le prix du gouverneur général, alors. Ça faisait beaucoup de choses, l'une après l'autre.
Oui, mais vous savez, moi, je remporte les prix 2 ans avant qu'on les majore, qu'on majore le prix. J'ai eu 15 000 $ et 3 ans après, c'était 30 000.
C'est vrai.
J'ai eu 5 000 et 4 ans après, c'était 10 000.
Et maintenant, c'est 15 000. Alors,
c'est pour
voyez...
ça que c'est pour ça que je suis habillée comme l'as de pique, vous savez.
Non, ben non, pas du tout. Et puis en plus, on est assortis, vous voyez, on est vraiment, je vous dis depuis le début, un beau couple.
Avouez que vous m'avez appelé hier pour me demander d'être en gris.
C'est pas vrai. Alors, nous voilà au début des années 60 à Radio-Canada et je veux bien croire que c'était un moment d'une exceptionnelle effervescence et d'une grande créativité. D'abord parce que c'est le début de l'effervescence qui va conduire le Québec à une véritable révolution culturelle qui va avoir lieu 10 ans après, mais aussi parce que c'est vraiment le lieu où on bâtit, moi qui suis là depuis maintenant 9 ans, toutes les personnes que je connais et qui me parlent de Radio-Canada, j'ai fini par comprendre que ça avait joué une place tout à fait exceptionnelle et prépondérante dans le développement non seulement national, mais surtout culturel du pays. Non, et vous êtes là.
Je suis là, mais je suis vraiment dans une... Je ne suis pas au cœur de l'actualité. En 63, pas du tout, parce que le service dont je fais partie n'est pas important. Mais autour de nous, il y a, par exemple, Cité Libre, qui est une revue qui a été rapidement... qui était dès ce moment-là un nid de fédéralistes, mais à l'esprit ouvert, qui voyait dans l'effervescence, qui pourtant allait les exclure, voyait dans cette effervescence quelque chose de bien. Il y avait des sociologues importants, il y avait Marcel Rioux, il y avait Morin, en tout cas, et des tas d'autres. Il y avait Parti pris, il y avait, dans les émissions d'affaires, on appelait ça affaires publiques à l'époque, c'était un anglicisme, des émissions où on parlait de sujets politiques et sociologiques sur un ton sérieux, et même à la télévision. Il ne s'agissait pas d'un petit clip d'une minute et 5 secondes. Là. Vous avez quelqu'un qui vous parlait pendant une demi-heure. La littérature n'avait pas tellement sa place, remarquez. Elle avait une place, mais très, très congrue, et c'est à peu près toujours été comme ça. Mais la politique et la pensée, si vous voulez, trouvaient à la télévision et surtout à la radio de Radio-Canada une place importante. Le grand événement pour ce qui est de la culture qui nous intéresse, nous tous, la littérature, la musique, ça a été la création des émissions culturelles en 70.
Alors, ça, c'est vous qui créez avec,
ben, c'est
avec
Jean-Guy Pilon.
Votre ami Jean-Guy Pilon.
Non, mais moi, attention, c'est Jean-Guy Pilon était l'âme dirigeante, c'est lui qui avait été superviseur d'une section du service des affaires publiques qui s'occupait de culture. Et de superviseur, il est passé à chef de service et il m'a demandé, moi qui travaillais dans le domaine, dans ce qu'on appelait la radio générale, il m'a demandé si je voulais bien me joindre à son service. Mais il y avait déjà des gens qui étaient là. Ça serait injuste de ne pas les nommer. Il y avait Fernand Ouellet, André Langevin, il y avait Gilbert Picard et d'autres peut-être dont le nom m'échappe. Ces gens-là faisaient des émissions avec des gens qui s'appelaient Hubert, les écrivains.
Oui. Et j'avais fait une longue entrevue avec Jean-Guy Pilon, d'ailleurs justement sur la naissance de ce qui est devenu la chaîne culturelle de Radio-Canada et qui s'appelait à cette époque-là les émissions artistiques parlées.
Oui.
Oui. Et vous allez alors commencer une autre carrière, je dirais improbable et inespérée pour quelqu'un qui était aussi timide dans le temps, et qui était celle, en plus de réalisateur, d'animateur. Et vous choisissez deux domaines qui sont vos domaines de prédilection, le jazz et la littérature. Racontez-moi ça. C'est une métamorphose.
Métamorphose, mais qui a été, au fond, assez lente. J'espère que je ne serai pas trop long à l'expliquer. Mais
a tout notre temps.
Donc, le service est créé en 70 et... pour faire des émissions littéraires, c'est pour ça que je suis engagé, on me soumet et je propose des projets qui ont à voir avec des voyages à l'étranger, surtout en France, mais plus tard également, par exemple, au Danemark, en Suède, en Israël. Et il n'est pas question, à cause du budget qui m'est alloué, d'avoir un intervieweur avec moi. Je deviens donc intervieweur. Et dans certains cas, en même temps, technicien. Si on va loin, là, il faut y aller seul. Je m'improvise. Comme je suis réalisateur, au début, je pose les questions et je vais chercher des réponses. Rendu à Montréal, je fais le montage et j'enlève mes questions. Mon cheminement vers le travail d'intervieweur a été lent, si vous voulez. Il devient plus présent, en réalité, vers 72, moment où je propose à Radio-Canada une émission sur le jazz, parce que pendant une année ou deux, il n'y avait plus d'émissions sur le jazz. Je leur dis, je suis engagé comme réalisateur, est-ce que vous acceptez le projet d'une émission quotidienne, du lundi au vendredi, sur le jazz, et je vais rédiger le texte qu'un annonceur va lire. Cette émission-là s'appelait « Dictionnaire du jazz ». Dictionnaire, donc, de A à Z. À la fin de la saison, rendu au Z, je me suis dit, après « Dictionnaire », pourquoi ne pas faire une émission sur le jazz et l'animer également. Et, étant parvenu depuis, entre... ces années-là, là, étant parvenu à acquérir une certaine aisance, très limitée, mais une certaine aisance devant le micro. Pour que mon idée soit acceptée, il fallait qu'il y ait un annonceur maison, qui a été Gilles Moreau, qui a co-animé avec moi, lui faisait l'annonceur, si vous voulez, et c'est moi qui apportais l'information, et c'est moi qui choisissais les disques, et c'était mes disques, comme ça a toujours été mon cas à Radio-Canada. Je n'ai jamais utilisé des disques de Radio-Canada. En 75 ou 16, quand il m'a dit qu'il en avait assez, j'étais heureux qu'il quitte, parce que il y avait une contrainte à avoir quelqu'un à côté de soi, quelqu'un qui est de bonne foi, mais qui vous dit, par exemple, l'un des grands musiciens de jazz, c'est Charlie Parker. Bon. Dont l'importance est considérable en jazz, aussi importante sa présence que celle de Beethoven en musique classique, et qui vous dit, puis vous n'avez que 25 secondes devant vous, je pense que l'importance de Parker est exagérée. Là, vous devez rétablir la vérité et faire jouer la pièce. Donc, j'étais heureux qu'il parte. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit, pourquoi je ne ferai pas des entrevues avec des écrivains. Est arrivée une offre de la Place des Arts pour faire des rencontres avec des écrivains, en partie d'ici, en partie étrangers, en général français.
Oui.
Qui, ça durait, je pense, une heure et demie. Et peu de temps après, là, je m'étais dit, c'était devant public, comme ici, à peu près le même public, je m'étais dit jamais plus, parce qu'on m'imposait, on n'avait pas choisi les invités. Et parmi les invités, je me souviens d'une fois, c'est pas sa faute à elle, il y a sa faute à elle, il y avait Jeannette Bertrand. Puis il y avait quelqu'un dans l'assistance qui, pour qui elle était une déesse, qui m'avait dit, vous êtes d'une dureté avec elle, ce n'est pas acceptable. Et puis tout ça, je m'étais dit, non, c'est fini pour moi. Pourtant, plus tard, un peu plus tard, c'était en 88.
Oh là là, on a fait un saut.
Non, non, on va revenir. En 88, le salon du livre me demande si je veux faire. Et je dis non, 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 mais on insiste beaucoup, beaucoup. Et je finis par dire oui. Et ça fait 20 ans que je suis là. Bon, on revient.
Et effectivement, là, si on est en 75 à Radio-Canada, ça fait 20 ans que vous y êtes, ça fait à peu près 20 ans que vous y êtes. Il y a toute cette évolution qui est la vôtre, qui est spectaculaire, mais c'est aussi celle de la société qui est tout à fait spectaculaire et qui vous permet de trouver votre place. Est-ce que pour vous, cette effervescence du Québec à cette époque-là a directement influé sur votre propre façon de faire votre métier, votre écriture, votre implication dans la société aussi, parce que c'est une époque où vous écrivez dans les journaux, vous prenez parti aussi. Vous êtes vraiment un acteur très actif, si j'ose dire, à la fois dans Radio-Canada, mais aussi dans la société, à tous les niveaux culturels.
Oui, remarquez que les articles à teneur sociologique, j'en ai écrit pour Le Devoir,
oui.
Mais c'est nettement plus tard.
Oui.
J'ai toujours été, évidemment, et c'est normal, je pense, été intéressé au premier chef par la société dans laquelle je vivais. Je ne suis pas un être politique, je n'ai pas l'ombre d'une idée, mais j'ai au moins des sentiments politisés, je dirais. Et dans le Radio-Canada qui existait à ce moment-là, c'était porté, surtout dans l'endroit où j'étais, c'était porté par cette poussée, j'aime pas le mot nationaliste, mais il faut bien le dire, ce nationalisme de gauche, mettons. Mm. Jean-Guy Pilon en était, mais les amis de Jean-Guy Pilon, c'était Paul-Marie Lapointe, Gérald Godin, Hubert Aquin, tant d'autres. Il y avait un vent de renouveau, le besoin de se séparer du Québec qui avait précédé, qui n'avait pas tous les torts qu'on lui impute, je pense, mais qui en avait beaucoup, la plupart tenant de la religion catholique ou de la sorte de religion catholique qu'on nous imposait ici. Et on sentait le besoin, donc, de sortir de ça. Moi, je dois dire que pour moi, personnellement, dès l'âge de 17 ans, l'Église n'a pas eu aucune importance pour moi, ni non plus la religion. Enfant, j'avais un tempérament religieux, mais dès 17-18 ans, non. Je lisais ce que je voulais. Et même si j'allais à un séminaire, comme je le disais tout à l'heure, là, je lisais ce que je voulais. Je me souviens même d'avoir commandé, ne le sachant pas quand même, dans le Québec de 1952, la main de Lady Chatterley.
Ah.
Et l'avoir fait commander à Paris par mon professeur et directeur de conscience. Ça voulait dire, probablement, moi je ne le savais pas, je savais que c'était un livre qui valait la peine, je savais qu'il y avait un contenu, mettons, érotique, très sensuel en tout cas, mais le directeur, qui est un homme charmant, remarqué, ne devait pas connaître.
C'est-à-dire c'est aussi sulfureux que d'une certaine façon, c'est autant une critique sociale qu'autre chose.
Ce n'était pas sad, ce n'est pas le plaisir pour le plaisir,
non.
C'était la découverte de la sensualité chez un être fruste et qui rencontre une personne qui est privée d'activité sexuelle par son mari impuissant. C'était ça, la thématique. Mais très, très tôt, c'est ça. Moi, il m'a semblé que personne ne pouvait me donner des règles de conduite, mais je n'étais pas un révolutionnaire. Je ne suis pas de ceux qui veulent scandaliser. Je suis de ceux, cependant, qui veulent faire leur truc en toute liberté et qui veulent aller jusqu'au bout sans avoir de compte à rendre. Mais les fois où j'ai essayé de protester ouvertement, j'avais l'impression d'être un peu ridicule. C'est que je ne me contiens pas. Je n'ai pas cette retenue. L'émotion me fait rapidement perdre mes moyens, si je me fâche. Oui, bon.
Donc, il vaut mieux écrire, justement, parce que là, au moins, on a effectivement le contenu. Il y a des émissions célèbres dont le nom est resté célèbre, il s'inscrit dans l'histoire de la radio, Book Club, Littérature au pluriel, Libre Parcours, des émissions de jazz aussi. Votre dernière émission de jazz, à l'époque où j'étais là aussi, Jazz Soliloque. Je disais tout à l'heure que vous aviez créé, en fait, le genre de l'entrevue à la fois intimiste et intérieure en littérature, et que vous avez été un maître pour beaucoup de personnes comme moi aussi. Quand vous avez débuté ces émissions littéraires, quel était votre objectif? Pour vous, quelles devaient être les qualités d'une émission littéraire à la radio?
Bon, il y a deux points que je veux retenir. Moi faisant des interviews et deux, moi faisant une émission. Comme réalisateur, j'ai toujours voulu que ce soit informatif, que l'on donne à l'auditeur des informations précises sur un ton qui n'était pas compliqué, inutilement compliqué, alambiqué, parce que je m'adressais toujours à l'autodidacte que je crois être au fond. Mmh. C'est-à-dire que, pour employer un cliché, c'est évident qu'un chauffeur de taxi peut aussi bien lire Camus qu'un professeur d'université. Mmh. Il est probable qu'il ne va pas lire au même niveau, mais je veux que le plus grand nombre possible de gens s'intéressent à cette chose qui a transformé ma vie, la littérature.
Oui.
Comme réalisateur, c'est le souci que j'avais. Comme intervieweur, c'est tout simple. Je voulais, devant l'écrivain qui était devant moi, essayer de comprendre, puis tout en sachant qu'il n'y avait pas de réponse, pourquoi il écrivait. Et j'essayais, non pas de me mettre à sa place, mais j'essayais de lui permettre de donner les clés de son écriture. J'essayais de le mettre en confiance. J'essayais de faire en sorte qu'il m'oublie. C'est pour ça que lorsque je fais des entrevues, si l'écrivain me dit « Vous savez de quoi vous parlez, vous avez fait un magnifique livre », je dis tout de suite « Non, c'est de vous dont il s'agit. » Parce qu'il faut que l'écrivain que vous interviewez soit vraiment à l'aise et qu'il ait l'impression, en quelque sorte, de tenir un journal personnel.
Mais j'allais vous dire ça exactement, c'est que quand on est soi-même écrivain, dans la position de l'intervieweur d'écrivain, il faut, enfin, ce qu'on peut faire de mieux, n'est-ce pas, d'être justement un intervieweur de l'intérieur, tout en se mettant en retrait, mais au moins d'être un intervieweur de l'intérieur et non pas juste un animateur de l'extérieur.
C'est ce que j'essaie de faire. Il faut que ce soit comme ça, je vais vous dire pourquoi. Au Salon du Livre, par exemple, la semaine prochaine, là, je vais faire 14 entretiens et j'en fais un autre pour Radio-Canada. Mais, je reviens au Salon du Livre, ce ne sont pas des écrivains que j'ai nécessairement choisis. On discute et j'en choisis, mais il y en a qui me sont proposés. Je ne dis pas imposés parce que j'ai un droit de veto. Je peux dire, je ne veux pas interviewer. Mettons, si Le Pen écrivait un livre, je ne voudrais pas l'interviewer.
Moi non plus.
Parce que je suis tout à fait malhabile à mettre en boîte quelqu'un et à être agressif à longueur d'entretien. Je suis incapable de faire ça. Il faut donc que je sois, qu'il y ait une certaine symbiose. Et cette symbiose, elle est possible, je l'ai constaté souvent, même avec des écrivains dont je n'ai pas aimé le livre. qui sont ou non de bons écrivains. Parce qu'il y en a parfois quelqu'un qu'on m'a demandé d'interviewer a fait un livre que je trouve vraiment détestable. Mais j'ai remarqué qu'il m'est arrivé au moins une fois sur deux qu'à la fin de l'entrevue, je me sentais presque en communion avec l'auteur.
Oui.
Le livre ne me semblait pas meilleur la plupart du temps. Mais, et d'après moi, il faut faire ça pour permettre à la personne devant soi de sortir ce qu'elle a de mieux. Si c'est possible.
Alors justement, je suis très d'accord avec vous, mais ma question porte sur la disparition des émissions littéraires aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis, ont-elles disparu du panorama radiophonique et même télévisé? Mais la télévision, c'est autre chose. Pourquoi? Et ce qui a disparu en même temps, c'est aussi justement cette capacité à dire autre chose d'un livre que j'aime ou j'aime pas, qui en fait n'a strictement aucun sens, n'a presque pas lieu d'être. Pourquoi, à votre avis?
Ou de raconter le livre.
Oui, la critique consiste à dire il se passe ceci dans le livre.
La question est à la fois complexe et simple. Je pense que la réponse, j'entends, c'est qu'on veut... C'est l'audimat, hein, c'est les codes d'écoute. Les codes d'écoute. Quand on faisait ces émissions avec Jean-Guy Pilon, dont vous parliez tout à l'heure, il était fréquent qu'on entende même les écrivains nous dire « Vos émissions sont ennuyeuses ». Les gens n'avaient pas, et ils l'ont certainement encore moins, cette faculté d'écoute. En un mot, de ne pas bouger et d'écouter quelque chose.
Vous croyez ça vraiment?
Beaucoup d'entre eux, en tout cas. Et à force de ne pas cultiver cette gymnastique intellectuelle-là, eh bien, elle devient de plus en plus périlleuse, de plus en plus difficile.
Et pourquoi le réseau anglophone, d'ailleurs excellent, de CBC, a d'excellentes émissions littéraires?
On me dit que ça va quitter les ondes. On me dit.
Pourtant, c'est une nécessité dans la société, non?
Alors, c'est ce que je crois, tout à fait intimement. Et je me suis toujours consolé, moi, du nombre limité d'auditeurs que nous avions en me disant tout simplement, mettons qu'on a 10 000 auditeurs pour une émission, c'est beaucoup plus que le dernier roman que je viens de paraître.
Mais d'une part, d'autre part, ces 10 000 personnes-là y ont droit. Si on regarde, par exemple, une chaîne comme France Culture, dont les derniers sondages disent que c'est 1,8% de l'auditoire, ça paraît dérisoire. Mais il n'est pas imaginable que cet espace d'expression-là disparaisse ou qu'il n'ait pas lieu, il n'ait pas droit de citer.
En France, c'est constant, hein, des gens qui en veulent, qui voudraient que France Culture, vous le savez mieux que moi, France Culture disparaisse. Mais ça ne disparaît pas. Ici, encore une fois, c'est trahir la raison même qui fait que nous écrivons. Un écrivain véritable, c'est quelqu'un qui dit quoi? Qui se dit, j'ai quelque chose dans la main, venez voir. Vous ne demandez pas aux gens de faire l'effort de venir voir ce qu'il y a dans la main, ou au contraire, vous faites du Harry Potter à la pelletée, eh bien, vous avez des gens qui sont incapables d'aller, sont incapables de penser, incapables de rêver, incapables de méditer, incapables d'une attente, si vous voulez, qui dure plus que 5 minutes. C'est bien évident, là, on en a des preuves. À l'émission du dimanche de Radio-Canada, que je ne regarde jamais parce que ça m'horripile, mais en tout cas, ça ne regarde que moi. Tout le monde en parle. Les deux derniers écrivains qui sont passés, c'était Marie Laberge et Michel Tremblay.
Il y avait moi aussi.
Tous des gens... Non, non, mais...
non, je
pas,
sais.
Pas pour votre livre.
Ben...
Ouais. Ça n'était pas pour les raisons littéraires de votre livre.
Non, c'est non, je suis bien d'accord, mais c'est pas une émission où on va pour parler de littérature.
Non.
Mais
C'est parce que je veux, brièvement, c'est qu'à Radio-Canada se défend en disant « mais les écrivains passent à des émissions ». Oui, mais c'est un type d'émission, puis là, je vous exclus. Un type d'écrivain qui passe à une émission, et surtout, ils ne vont pas là pour parler de leur livre.
Non, ça, je suis très d'accord avec vous. En plus, je refais référence à quelque chose que vous avez dit et qui est très important. C'est que c'est vrai que la radio a cet espace d'intimité tout à fait irremplaçable par rapport à la télé, qui est de toute façon obligatoirement un cirque, parce que la télévision, c'est d'abord une image. Or, la radio, l'image, il faut se la faire soi-même. Et c'est en ça que la radio est vraiment un média tout à fait indispensable, tout comme le livre est un partage du silence, parce que on écrit dans le silence, on lit dans le silence, et il y a cette communion du silence qu'est la littérature, et puis il y a cet espace d'intimité qui est la radio, et ça, c'est irremplaçable, c'est ça qui manque.
C'est ce que j'ai toujours aimé dans la radio, Max. C'était la même chose qu'un livre. Ça s'adresse à une personne en principe seul qui écoute. Mmh. Si vous êtes cinq personnes, en général, vous allez parler et vous n'écoutez pas la radio. C'est une toile de fond.
Vous jouez aux cartes.
Comme... oui. J'ai rien contre les cartes.
Remarquez. Non, moi non plus.
À 7 ans, je jouais au poker, madame.
Oh!
Oui, oui. Je ne joue plus maintenant, mais parce que mes parents jouaient. Donc, je remplaçais quand un oncle allait faire pipi, c'est moi qui jouais à sa place.
Ah bon?
Oui, c'est ça, la radio. C'est évident que c'est l'équivalent, c'est très intime, ça vous parle si c'est bien fait, si c'est bien fait. Si... La radio, en un mot, pour moi, ce n'est pas la place des symphonies, ce n'est pas la place des spectacles devant public. C'est pour ça que je déplore que l'unique émission littéraire de Radio-Canada se passe devant public et qu'on en fasse un spectacle. J'ai participé à cette émission-là, moi. Mais
c'est l'émission
je pense
de Raymond Cloutier.
Qu'il y en ait une, pourquoi pas, mais si, puisque c'est la seule, c'est inquiétant.
Oui. Maintenant, on peut vous écouter tous les dimanches matins faire votre billet à l'antenne de Joël Le Bigot. C'est un moment qu'on attend avec plaisir. Et justement, parce que il y a un genre aussi dans tout ce que vous avez fait, qui est la chronique, le billet d'humeur.
Et on me donne entière liberté. Oui. Le réalisateur ne sait pas, ni Joël non plus, ne sait pas de quoi je vais parler. Il est évident qu'il faut que je sois, j'allais dire, prudent, mais je peux ajouter intelligent. Bien sûr, si je faisais un pamphlet contre, mettons, le premier ministre, bon, on me virait dès le lendemain.
Ah oui?
C'est évident. Ben oui. Je ne suis pas là pour faire des éditoriaux, je suis là pour faire une chronique d'humeur. Et ça, je tiens à cette liberté. Je peux, en un mot, à ma propre discrétion, être tendre, ironique, humoristique, triste ou gay, ou n'importe quoi. Ça dépend de moi uniquement.
J'ai toujours cru qu'on avait entière liberté à Radio-Canada. Jamais personne ne m'a demandé ce que j'allais dire non plus.
C'est une question piégée, ça.
Oui, peut-être,
Je n'ai jamais travaillé pendant longtemps pour le service de l'information. Mais il est évident qu'à l'information, on demande aux journalistes d'être objectifs. Moi, personnellement, je trouve que le terme d'objectif est un terme creux, que ça n'existe pas. Mais il est normal qu'un organisme ait recours à ce genre d'expression-là et se tienne à cette façon de voir les choses. Je pense qu'il faut l'admettre.
Oui, mais ça, en revanche, ça fait partie de la déontologie du métier de journaliste.
Oui.
Là. C'est différent pour les animateurs. Dernière question sur la radio, parce que vous êtes avant tout un écrivain et un grand écrivain, on va revenir à votre parcours littéraire.
Puissiez-vous avoir raison?
Oui, j'ai raison. Je l'affirme.
Je vote pour vous.
Si vous deviez faire une émission de radio aujourd'hui, vous feriez quoi?
J'en ferais au moins trois genres. Vous savez, j'ai eu cette grande chance de travailler pendant plusieurs années avec Wilfrid Lemoine. Voilà quelqu'un qui a été oublié. Il était un magnifique animateur à la télévision, oui, mais moi, je l'ai connu à la radio, j'ai travaillé avec lui. C'est quelqu'un qui lisait les livres et qui en parlait avec enthousiasme. Cet homme pouvait vous faire acheter et lire un livre à peu près à tout coup. Il était en même temps animateur, c'est-à-dire qu'il avait à côté de lui trois lecteurs que j'avais choisis moi-même, qui étaient des écrivains. Jacques Brault, François Ricard, Yvon Rivard, vous voyez, ça avait une certaine qualité.
Oui.
Et une émission de ce type-là, qui parlait, ça s'appelait littérature au pluriel,
oui.
Ça parlait de littérature qui n'était pas québécoise, mais de la littérature du monde entier. Et c'est moi qui choisissais les livres. C'est le seul domaine où j'étais un peu dictatorial, si vous voulez. C'est moi qui décidais que Wilfrid allait parler de tel livre et tel autre. Et je pense qu'on réussissait, et surtout Wilfrid, réussissait à faire aimer la littérature. C'est bien beau de parler de littérature, mais si vous ne réussissez pas à faire aimer, vous perdez votre temps, d'après moi. Donc, je crois à ça. Je crois aussi à une série que j'avais faite qui s'appelait Le Jardin secret. C'est-à-dire que je choisissais un écrivain et j'interviewais des gens sur son œuvre. Donc, j'ai pris un mauvais titre. C'est un autre titre. C'était ça, là. J'ai une confusion dans mon esprit. Était-ce? En tout cas, ça n'a aucune importance. Oublions les titres. Il y avait une émission que je faisais sur un écrivain que j'aimais. J'interviewais des gens qui l'avaient connu, qui connaissaient son œuvre. Et en même temps, je présentais des extraits de son œuvre. Ça s'appelait « Les écrivains du cœur ».
Ah.
C'est le temps. L'autre était... L'autre émission s'appelait « Le jardin secret ». Et il y en avait un autre aussi qui s'appelait « Plaisir à ». C'est que j'invitais un écrivain qui me parlait d'un autre écrivain qu'il aimait, et je demandais à un comédien de lire un extrait. C'est donc, d'après moi, trois approches différentes au phénomène littéraire. Je ne crois pas beaucoup, quant à moi, aux magazines culturels. Je sais qu'il faut que ça existe, mais d'après moi, ce n'est pas ça qui est essentiel.
Donc, vous feriez une émission de littérature et non pas de jazz? Aujourd'hui, si vous deviez avoir les deux.
Je pensais que je ne parlais que de littérature, de jazz. Oh mon Dieu, non. J'adorais faire ça. Écoutez, c'était absolument l'équivalent de quelqu'un que j'aurais invité chez moi, quelqu'un que j'aimais, à qui je n'étais même pas tenu d'offrir un scotch parce que c'était en studio puis il n'y avait pas d'alcool, mais à qui je faisais tourner les disques que je venais d'acheter. Parce que c'était ça. J'avais des gens qui étaient prisonniers, mais ils ne l'étaient pas, ils pouvaient fermer le poste, ils pouvaient éteindre le poste sans problème, mais je leur faisais jouer ce que j'aimais, d'une musique que j'aimais, avec dans la tête ce côté amour, mais en même temps, cette idée d'histoire du jazz. C'est-à-dire, je n'aime pas les gens, moi, qui croient, ça va vous aider, hein, qui croient au modernisme à tout prix. Je pense qu'il faut faire avancer la littérature, mais on n'avance pas si on n'a pas en même temps une idée du passé littéraire ou musical. C'est pour ça que le jazz, pour moi, la journée où on m'a dit que c'était terminé, ça a été terminé deux fois. C'était terminé en 92, quand on m'a offert de prendre ma retraite comme employé régulier, que j'ai accepté parce qu'il y avait une somme d'argent importante qui était attachée à cette offre-là. Et j'ai hésité longtemps, mais j'ai fini par l'accepter. Et par la suite, on a fait appel à moi pour le jazz. En général, pendant le festival de jazz, événement que je n'aime pas tellement parce que j'aime pas les foules. Bon, parenthèse. Et on a refait appel à moi il y a à peu près six ans, cinq ans, quatre ans. Et lorsque, en 2002, on va dire, c'est peut-être 2003, on a dit que c'était fini.
2004?
Oui. Bon, pour moi, c'était une très, très mauvaise nouvelle. Parce que des entrevues, j'en faisais encore, pas à la radio, mais j'en faisais... Au Salon du Livre,
oui.
Et je disais des livres pour Le Devoir. J'avais fait des entrevues pour Le Devoir. Mais vous ne pouvez pas faire des émissions chez vous quand vous êtes seul.
Non, c'est sûr.
C'est fini.
Oui,
ça, mais il m'arrive encore, et croyez-moi, j'achète beaucoup, beaucoup de disques de jazz, moi, de les acheter en me disant que peut-être, moi qui ai 108 ans et 2 mois, qu'on me demandera de faire une émission de jazz un jour.
C'est extraordinaire.
Oui, oui, parce que je ne dis pas ça pour me vanter,
ni pour me
déprécier. Je suis heureux d'avoir en moi, moi le pessimiste, d'avoir cette sorte d'enthousiasme en moi.
J'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui est tout à fait votre vie, votre parcours littéraire. Je disais tout à l'heure, 16 romans, presque une dizaine de nouvelles, autant de chroniques, un récit. Tout ça, tout au long d'une vie professionnelle, comme vous l'avez dit, extrêmement active, vous n'avez jamais cessé d'écrire. Comment vous avez réussi à concilier les deux ?
Ah, facilement. Facilement. Moi, j'écris de façon fébrile, mais il y a de longs mois où je n'écris pas. J'écris parce que vous allez me dire, vous faites les billets pour le Migaud.
Non, je parle des livres.
On parle en termes de livres, en général, quand un livre est publié pendant 6 mois, je ne fais rien. Actuellement, par exemple, je ne fais rien. Je ne fais rien, mais je pense. Je pense, peut-être, ne devrais-je pas penser, mais... Je rêvasse, si vous voulez.
Dernier roman, je veux le dire, quand même, Les Rives Prochaines, qui est paru en septembre aux éditions du Boréal. Donc, ça explique que vous soyez dans une période de rêvasserie.
Oui, un livre fort important qui s'offre beaucoup à Noël.
C'est ça. On aurait pu en apporter d'ailleurs des exemplaires.
C'est pas moi, c'est mon éditeur qui insiste pour que je dise ça. C'est ça, il y a de longues périodes où je n'écris pas, mais en réalité, j'écris. Depuis 2 ans à peu près que j'ai repris une chronique littéraire au Devoir, je lis beaucoup, beaucoup. Et il y a des écrivains qui disent que lire, ça les empêche d'écrire. Moi, au contraire, ça me stimule. Mmh. Mmh. Je viens de lire un livre merveilleux, là, qui n'a pas remporté le Goncourt, mais le livre de Claudel.
Ah oui.
Merveilleux livre. C'est un livre qui fait penser, qui rend sensible et qui fait écrire également. Je viens de lire aussi des entretiens de Pierre Michon.
Ah oui, oui. Lui, c'est extraordinaire.
Le roi vient quand il veut. Oui, c'est une série d'entretiens. En général, je ne dis pas ça à cause de vous, mais à cause de moi, ça peut être barbant, des entretiens. Mais là, dans le cas de Michon, c'est merveilleux parce qu'il ne parle que d'une chose, la création littéraire.
Oui.
Ce genre de livre-là fait écrire. Donc, quand j'écris, je ne pense qu'à ça, mais je suis un homme qui vit avec une femme. Je suis un homme qui vit dans une maison.
Mais qui a des enfants, qui a des petits-enfants.
Des enfants et qui... justement, c'est dans la mesure où on aime qu'on est comblé et en même temps préoccupé. Surtout si, comme moi, on croyait fermement et on croit toujours qu'il est pour au moins périlleux de contribuer à donner la vie. Ce sentiment de culpabilité, je l'ai toujours eu et je l'aurai jusqu'à ma dernière heure. Je me sens responsable de mes enfants et de leurs enfants.
Oui, et pourtant, vous avez dit justement que vous aviez, en fait, vous auriez préféré ne pas contribuer, mais que vous l'avez fait contribuer à reproduire la vie, mais que vous l'avez fait par amour.
Bon, oui, c'est clair.
Il n'y a pas d'autre raison de le faire de toute façon.
C'est clair que c'est ça. J'ai toujours aimé les enfants. J'aurais été, si vous voulez, pour dire les choses de façon nette, j'aurais volontiers adopté des enfants parce que j'ai toujours souhaité être entouré d'enfants.
Oui. Alors, pour reprendre votre parcours littéraire, comment passez-vous d'un livre à l'autre, justement? Comment est-ce qu'un livre produit le suivant? Je dirais, dans quelle faille du précédent naît le prochain? Parce que c'est un cheminement.
Oui. J'essaie de faire, si c'était réussi, on appellerait ça une œuvre. C'est ça que j'essaie de faire. Quand on me dit que mes livres se ressemblent, et qu'on croit me faire de la peine, non, au contraire, ça me conforte.
On écrit toujours le même.
Mes personnages se ressemblent beaucoup. Je ne suis pas un véritable créateur de personnages. En réalité, ce que je fais, c'est une sorte de journal intime qui n'est pas biographique. Si je connaissais une passion fulgurante, j'en ferais pas un livre. Si ma femme mourait de cancer, mettons, je ne ferai pas un livre là-dessus. Non. Mais d'avoir connu ces expériences-là nourrirait mon écriture par le biais, par ma façon de voir le monde. C'est donc ma difficulté de trouver une place dans le monde qui fait que je continue à écrire. Chaque livre paru est pour moi une épreuve, parce que, tout simplement, il y a des gens qui vont en parler. Il y a des gens qui vont commenter le livre et rarement commenter d'une façon qui me satisfasse. Non pas, je ne parle pas d'éloge, là, parce que ça serait trop vulgaire que de parler comme
compris.
Ça.
Qu'ils
aient compris. Ce pourquoi, c'est en un mot, ce pourquoi j'ai écrit. C'est peut-être, il y a peut-être de ma faute, peut-être que j'ai mal rendu cette exigence-là.
Mais Gilles Archambault, là, c'est vraiment une question qui est fondamentale. Justement, je disais tout à l'heure, c'est toujours un malentendu. Est-ce qu'il est vraiment possible, est-ce que c'est possible que la raison profonde pour laquelle on a écrit soit ce qui est lu par autrui,
non.
Quiconque?
Non.
C'est bien pour ça qu'on continue.
C'est l'une des raisons. Oui, je dis souvent, si j'avais eu l'impression de faire un bon livre, je n'en ferais pas d'autre. J'essaie qu'il ne soit pas...
Il n'empêche que le livre soit bon, mais peut-être qu'on se dit toujours, hein, j'ai encore raté à dire ce que j'avais à dire.
Et pour avoir un réflexe comme celui-là, il faudrait que je me relise. Il y a des écrivains, vous savez, qui peuvent parler de leur livre. Il y a l'exemple d'universitaires qui enseignent leur propre ouvrage. Moi, j'en suis incapable et ça ne m'intéresse pas. Les fois où mes livres ont été traduits en anglais, c'est produit à 4 ou 5 reprises, je disais au traducteur, c'est parfait, je ne le lisais même pas. S'il me demandait que veut dire telle expression, parce que c'était un terme que lui, anglophone, ne comprenait pas, ça va, je lui donnais la réalité. Et si on republie mes livres en poche, je dis que je les relis et je ne les relis pas.
Oh! Sauf, je ne sais pas si votre éditeur est là.
Non, sauf pour La fleur aux dents, qui est un roman que j'avais écrit parce que je voulais réagir contre ce qui me semblait être le silence qui accueillait mes livres, et j'essayais de crier plus fort. Et mes personnages avaient souvent des jurons, et ça m'énervait, ça. J'ai donc, dans la dernière édition, j'en ai enlevé beaucoup, beaucoup.
Vous avez dit que, d'une certaine façon, vous étiez désabusé, non pas de l'écriture, mais de la publication des livres. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce côté désabusé?
J'imagine un immense orgueil. J'ai dit vanité tout à l'heure, il y a une heure, là, quand on a commencé à parler, mais je ne pense pas être vaniteux, je suis orgueilleux cependant. Il doit y avoir de ça dans ce sentiment. Il y a aussi le malaise, c'est se regarder dans un miroir. Si les mauvaises critiques, moi j'ai souvent dit ça, je les apprends à peu près par cœur, je les oublie 2 jours après, et les bonnes, je les lis en diagonale. À peu près comme si c'était indiscret, à peu près comme si c'était impudique.
C'est comme si vous ne les méritiez pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière?
Non, même pas. Je suis mal à l'aise. Je veux passer à autre chose.
Mais pourtant, vous dites que si les livres ne sont pas compris, ne sont pas reçus, ça vous affecte.
Deux exemples de choses que je trouve qui m'horripilent dans les critiques qu'on fait de mon livre. On dit... Ces personnages sont toujours des personnages voués à l'échec, au pessimisme. Moi, je dis que le pessimisme et l'échec font partie intrinsèque de la nature humaine. J'ai lu il y a quelque temps, ça fait peut-être 3 ans, sous la plume de, je pense, Mallarmé, qui disait « Ratés, nous le sommes tous ». Tous les gens sont ratés, sont des ratés, parce qu'on est ratés par rapport à ce qu'on avait espéré, ce qu'on avait attendu de la vie. La vie, quand on parle du bonheur, par exemple, qu'est-ce que c'est le bonheur? Ce sont des instants de bonheur. Vous ne pouvez pas être heureux si vous savez que vous allez mourir et si vous ne croyez pas à une survie. C'est impossible, c'est un leurre. C'est évident que j'aime être joyeux, j'aime être heureux, l'écoute d'une pièce de musique... la contemplation d'une toile de Georges de Latour, mettons, ou de Turner, ou de Zhao Wuki, ça m'emplit complètement. La nature, moi, oui, mais à petite dose, je suis un être des villes, moi. La nature m'ennuie rapidement, mais je sais qu'il y a des beautés là-dedans. La beauté des enfants, encore une fois. Il n'y a rien de plus beau qu'un sourire d'enfant.
Mais moi, je ne dirais pas ça du tout, ce que je vais trouver comme, en essayant de réfléchir, comme constante dans vos thèmes littéraires. C'est plutôt, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est cette mémoire obsédante des échecs passés ou des douleurs passées et l'incapacité à s'en défaire pour vivre le présent. Ça conduit à une mélancolie qui est certainement là, dans vos romans, mais pas dans vos chroniques, qui, elles, sont plutôt incisives. Et tout ce côté très intimiste, bien sûr, il y a aussi la présence de la mort, sinon du suicide, et puis beaucoup de ruptures. Alors, pour quelqu'un de comblé en amour, des couples qui sont souvent dans l'incompréhension, le malentendu, la rupture, le désir de recommencement, compris dans le dernier.
C'est peut-être que dans tout couple, il y a toujours cette possibilité de rupture. C'est-à-dire qu'on frôle des écueils qui sont constants.
Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces thèmes-là ou...
Oui, puisque je les traite. C'est-à-dire que... un peu de façon grotesque, un peu comme si, lorsqu'on dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Moi, je trouve que ça n'existe pas des gens heureux. Et heureux et conscient, je trouve ça difficilement conciliable. Je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis que c'est comme ça que ça s'est présenté pour moi.
Vos livres sont du côté de l'intime et d'une sorte de conversation intérieure que les personnages entretiennent avec eux-mêmes, en fait, d'une certaine façon, et entretiennent par là même avec le lecteur. Donc, il y a vraiment cette espèce d'interconfidence qui se fait entre le personnage et le lecteur à travers votre écriture. C'est ça qui paraît signer votre écriture.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, je crois beaucoup au silence.
Oui.
C'est-à-dire que chez moi, vous avez sûrement remarqué qu'on ne se passe pas beaucoup de sel. Je ne fais pas des romans de 600 pages parce qu'il y a des choses que je m'interdis et qui ne m'intéressent pas. J'essaie d'aller à l'essentiel. Et j'ai découvert il y a 3 ans, en parlant à Robert Lévesque, que vous connaissez, qui m'interviewait, ce que je veux faire, je vois mes personnages à travers une vitre embuée. Je me sers de cet exemple-là, parce que d'après moi, c'est ça que j'essaie de faire. Ça ne veut pas dire que je réussis. Là, en un mot, il faut qu'il y ait du mystère dans les personnages. Il faut qu'on essaie de... que le lecteur, idéalement, essaie de compléter les conversations dont je ne livre que des bribes.
Mais alors, à propos de bribes, une de mes questions, c'est que votre œuvre, qui est une œuvre véritable, d'un écrivain véritable, donc... Pour moi, un écrivain véritable, c'est celui qui chemine, parce que écrire, c'est cheminer vers soi aussi. Donc, il est composé de nouvelles et de romans. Comment choisissez-vous ? Est-ce que vous choisissez quand vous allez écrire un recueil de nouvelles et quand vous allez écrire un roman et pourquoi ?
Laisser à moi-même, je vais vous expliquer après pour ce que je veux dire par ça, ce serait probablement des nouvelles que j'écrirai.
Tout le temps.
Parce que j'ai fait dans Stupeur, par exemple, comme vous l'avez vu, et dans L'obsédante obèse, c'est des textes qui n'ont même pas une page.
L'obsédante obèse qui a eu le prix du gouverneur général.
Oui, c'est ça, j'ai eu cette chance cette année-là de tomber sur des gens qui aimaient ce genre d'écrit. D'après moi, parce que dans ce genre de texte bref, vous allez à l'essentiel. C'est Stupeur, c'est un moment. Et très souvent...
Ah, mais Stupeur, c'est plus que ça. C'est presque un concentré très concis. Vous faites d'ailleurs référence à Jacques Chardon, l'écrivain de Mitterrand préféré.
C'est un de ceux.
Mais c'est parce que c'est quasiment un polaroïd sur 10 lignes qui découvre, comme si on soulevait comme ça un voile et puis on referme tout de suite. C'est plus qu'une nouvelle. C'est vraiment le.
Oui, ça s'appelle Stupeur. Au début, ça s'appelait Instant Stupeur, de Stupeur. C'est Jacques Brault et Éricard qui m'avaient dit que ça serait mieux Stupeur. Ça part, en tout cas, d'un moment de stupeur, d'une sorte d'émotion forte, et je la dilue, l'émotion forte, en 5 lignes ou 10 lignes. Donc, il n'y a pas de...
C'est plutôt concentré.
Concentré. La dilution n'est pas forte.
Donc, vous écririez des nouvelles, naturellement, tout le temps.
Tout le temps, et... Le genre d'écrivain que j'aime vraiment, à part les classiques, là, Stendhal, évidemment, Diderot, que j'aime beaucoup, il y aurait Dino Buzzati, qui a beaucoup compté pour moi, dont un livre, en ce moment précis, a été capital. C'est un très beau livre, un livre dérangeant sur l'existence, sur la façon de recevoir l'existence et de concevoir l'écriture également. Georges Perros, que j'avais eu l'occasion d'interviewer chez lui à Douarnenez, et dont les papiers collés sont pour moi des ouvrages très importants. Mais dans les romanciers contemporains, il y a Carson McCullers, que vous avez nommé tout à l'heure, qui a beaucoup, beaucoup compté. Et une autre aussi que j'aime, c'est Jean Rhys, que personne ne lit.
Mais... Ah si, mais moi, je l'aime beaucoup.
Je sais, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai lu et relu ce qu'elle a écrit. Et cette sorte de sensibilité qu'on dit féminine est celle que je cherche à avoir.
Certainement avec succès. Mais alors, vous n'écririez que des nouvelles, mais vous avez quand même écrit 16 romans.
Oui, mais vous vous sentez bien que ce n'est pas vrai. Si j'allais dire, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Je n'écrirais que des nouvelles, c'est que les éditeurs, le mien y compris, préfèrent des romans. Il y a ça, hein?
Ça, c'est vrai.
Il y a ça, bon. Et qu'il y a aussi chez moi le besoin d'écrire un roman. J'habite dans le Vieux-Montréal. Je suis retourné dans le Vieux-Montréal il y a 2 ans et demi. Et j'habite rue McGill. Puis la rue, deux rues de chez moi, il y a la rue Saint-Pierre. Et c'est cette rue-là qui m'a donné l'idée de mon dernier roman, celui qui vient de paraître, là.
La rive prochaine. Oui. Alors, justement, avant que je vous pose la dernière question et qu'on clôt cet entretien, qu'on pourrait continuer, hein, vous et moi, longtemps.
2 jours. Pour moi, il ne resterait pas grand monde.
Je me disais, je ne vais pas oser faire un tri dans tous ces livres à lui, parce qu'il y en a beaucoup et que je peux me tromper. Alors, je voulais vous poser l'avant-dernière question qui était, quels sont pour vous les ouvrages qui vous apparaissent, je dirais pas les plus importants, parce qu'ils sont tous importants, mais qui se constituent comme des pierres blanches, comme celle du Petit Pousset, je dirais, sur votre cheminement? Si vous deviez citer comme ça spontanément quelques moments importants de votre parcours.
Évidemment, comme vous vous en doutez, comme je ne me relis pas, je l'ai dit, il faut que je fasse appel à ma mémoire. Il y aurait sûrement Stupeur.
Oui.
Parce que ça.
Qui vient d'être republié d'ailleurs en.
Oui, pour la troisième fois là, chez Barlet, avec des inédits quand même.
D'ailleurs, je dois dire que vous êtes un écrivain qui est non seulement un long cheminement, mais chez le même éditeur aussi. Et ça, c'est important.
Oui,
vous êtes un écrivain de Montréal, vraiment.
Oui, j'ai fait en sorte de tout récupérer.
De tout récupérer.
Il en reste un seul, deux là, qui
que
sont
deux,
possibles.
Sauf dont le premier, d'ailleurs.
Dont le premier, qui va sûrement paraître un jour. L'autre, les textes dramatiques de radio.
Oui.
Je ne pense pas que ça soit repris chez Boréal. Ils n'ont pas de collection. Mm. Je sais qu'ils ont repris des textes de cette nature de Marie-Claire Blais, mais Marie-Claire Blais a une aura que je n'ai pas. Hein. Je suis assez intelligent pour m'en rendre compte, donc c'est normal que ça ne reparaisse pas. Donc, il y aurait Stupeur, c'est parce qu'en plus, il y a l'amitié. C'est une maison d'édition qu'on avait lancée pour publier des textes auxquels on croyait. La preuve, c'est qu'on a publié chacun de nous trois, Ricard, Brault et moi, on a publié là. Et en plus de ça, Gabriel Roy, Les Inédits, et Alain Grandbois. Et après ça, on a fermé boutique. Et donc,
c'est quand même prestigieux.
Ça ressemble à l'amitié, et c'en est, l'écriture de Stupeur. Et en même temps, c'était l'accomplissement d'un rêve, devenir de façon modeste éditeur. Oui, donc, c'est important. L'homme écrivain, vous dirais que un après-midi de septembre, vu que je parle de ma mère, c'est un livre important.
Oui.
C'est un livre que j'ai
écrit.
C'est
un magnifique.
Avec la photo de ma mère devant moi. Ma mère a 20 ans. Et parfois, je pleurais en l'écrivant. Je ne dis pas ça pour toucher personne, mais il fallait que je le fasse. Oui. C'était le cadeau que je voulais faire à ma mère. Les autres.
Que vous écrivez, je dois dire, à la mort de votre mère. Donc, vous parlez d'elle.
Dans les mois qui ont suivi.
Depuis le début, oui.
Parce que je voulais parler d'elle. Je ne parle pas de moi. Et c'est le seul de mes livres où le je veut dire moi. Sinon, c'est déguisé. Pour le reste, évidemment, je dirais le dernier ou l'avant-dernier. Je suis mal placé, là.
Le voyageur distrait.
Oui.
La fuite immobile. Parlons de moi, où il y a une sorte...
Parlons de moi, vous voyez, c'est pas moi du tout, du tout. C'était en 70.
Non, c'est un personnage.
J'avais 37 ans, c'est un personnage qui est alcoolique, j'en suis pas un. C'est quelqu'un qui aime son fils. Je suis un père qui aime son fils, même qui l'adore. C'est peut-être pour ça que j'ai pu écrire ce roman-là. J'y tiens, mais son écriture ne me satisferait probablement pas.
Mais c'est un personnage surtout qui fait son bilan, qui essaye de ouais. faire le bilan de ses échecs.
Ben, c'est pour ça que je vous dis que c'est au fond ce que je fais, moi. C'est une œuvre intimiste en ceci que c'est une personne qui vous parle. C'est très radiophonique, au fond. Ce genre de radio que nous aimons, vous et moi.
Oui. Alors,
c'est la confession déguisée.
C'est ça, c'est les confidences. L'obsédante obèse et autres obsessions, ça
agression.
Et autres agressions.
Ben, je ne suis pas grave.
Pardon. Un après-midi de septembre, les rives prochaines. Vous voyez, effectivement, j'avais fait ce cheminement-là, moi aussi. La dernière question, je vous le disais, en fait, c'est celle que vous posiez vous-même. Alors, j'allais quand même pas éviter de vous la poser. C'est celle que vous posiez lorsque vous interviewiez des écrivains. Au bout de tout ce parcours, finalement, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez dire pourquoi vous écrivez ? Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui ?
Je pense qu'on ne sait jamais exactement, mais moi, je serais porté à dire parce que la vie ne m'a jamais satisfait pleinement. Certainement pas quand j'ai commencé à écrire. Et maintenant, tout homme comblé que je suis, je sens qu'il y a un manque. Il y aura toujours un manque. Vous aimez je suis un homme. Vous aimez une femme, vous l'adorez. Mais il y a toujours, vous sentez un manque, vous posez des questions, non pas chez elle, mais peut-être chez elle, mais chez elle, mais chez vous. C'est-à-dire que la vie, comme par hasard, c'est une expérience humaine, donc incomplète. L'homme le plus riche du monde n'aura jamais tout ce qu'il veut. L'écrivain le plus comblé du monde n'aura jamais ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il continue à écrire. Il y a aussi que même si l'écriture, ça ressemble beaucoup au calvaire flaubertien, c'est agréable. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'aime écrire, j'aime pas me corriger, j'aime pas relire des épreuves, j'aime pas aller porter mon manuscrit à quelqu'un qui va le lire, mais le fait même d'écrire, c'est très jubilatoire pour moi.
Est-ce que vous êtes en train de me dire que l'écrire apporte un surcroît de vie?
Ça permet de vivre ailleurs. Vous êtes surnaturel, vous êtes une sorte de Dieu quand vous écrivez.
Alors, j'aime cette phrase, ça sera la dernière. Vous êtes une sorte de Dieu.
Avec
voilà.
un D minuscule. Pourvu que ça ne soit pas le Dieu Pan.
Ah ben, pourquoi pas? Donc, je vous remercie infiniment.
Merci, moi.
Je vais proposer à notre public qui a été fort attentif. Vous voyez que les gens sont capables de rester écouter un écrivain parler. Et moi, je suis désolée, mais cette série des midis littéraires prouve que oui, les gens aiment venir écouter un écrivain parler.
Hein.
Je ne sais pas, faudrait demander combien ils ont reçu. En tout cas, voilà, les questions du public.
C'est à moi, oui. Bonjour, je suis très heureuse d'être ici, de vous entendre. C'est très intéressant. Ça fait des années qu'on entend parler d'audimat et les codes d'écoute. Comment se fait-il que nous, l'auditoire, les gens, le public, nous n'avons aucun pouvoir? J'aimerais savoir quel est le mot magique, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous donne ce que l'on veut. Ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être assis, d'écouter, de faire fonctionner la petite matière grise, mais ceux qui aiment ça, pourquoi les en priver?
Et ceux-là, justement, paient aussi des taxes. Moi, j'ai toujours ce réflexe-là. Je trouve que c'est une grande injustice. Il y a aussi que, dans le cas d'une institution comme Radio-Canada, c'est bien évident qu'il y a un mandat à remplir que l'on pourrait résumer de façon ultime en étant celui-ci, rendre les gens moins idiots qu'ils ne le sont lorsqu'ils syntonisent le poste.
J'ai l'impression du contraire, parce qu'on veut populariser, on tombe dans le populisme depuis quelques années.
C'est parce que tout dans le monde qui est le nôtre, tout fait appel à la masse, au nombre de gens. Si on vous parle d'un film, on va vous dire immanquablement, c'est un film qui a coûté 45 millions. Si on vous parle de sport, on va vous dire que tel joueur a 7 millions par année ou je ne sais quoi. C'est ça qui intéresse. L'argent est pour maintenir en vie un organisme comme Radio-Canada, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent et l'argent, c'est la masse. On va vous dire, il n'y a pas assez de gens qui écoutent. Les gens n'écoutent pas parce que ça ne les intéresse pas. Ce qui est vrai et qui est faux en même temps. Mais jamais un politicien va admettre ça. Le service culturel de Radio-Canada, on dit de façon polie qu'il s'est transformé, mais en réalité, il a disparu pour Espace Musique, qui présente quand même, en règle générale, des musiques qui ne sont pas entendues ailleurs, en général, avec beaucoup de compromissions du côté de la musique populaire, mais en principe, personne ne parle d'art, de littérature, de sculpture, de quoi que ce soit, parce que croit-on, ça n'intéresse pas les gens. Et d'après moi, on fait fausse route. Si je ne disais pas ça, je renierais 30 ans de ma vie.
Je vous remercie pour conclure mon propos. Moi, je trouve qu'à la limite, quelque part, c'est franchement méprisant pour nous, pour les gens qui aimons la littérature, qui aimons la musique, qui aimons les belles choses. On ne l'impose à personne. C'est une question de choix. Mais il y a quand même un pourcentage de la population qui aime. Et pourquoi l'en priver?
C'est ce
Merci.
Que je pense. Mais vous savez ce qu'on vous dirait à ce moment-là? On vous dirait que la technologie s'est beaucoup développée et que vous pouvez entendre parler de littérature ailleurs que dans une radio. D'après moi, on a tort de penser ainsi, mais c'est à peu près la réponse. Et la direction de Radio-Canada doit, je ne veux pas être leur porte-parole, doit croire qu'on parle de littérature ailleurs que dans les émissions littéraires. On en parle à Christiane Charette, on en parle... Mais moi, à ça, j'ai toujours dit, et je l'ai dit à la direction même, devant le public, devant les employés, il y a 5 ans, ce n'est pas en invitant un écrivain connu qu'on invite nécessairement la littérature.
Bien sûr. Mais de même que ce n'est un objet avec des mots écrits dessus n'est pas forcément un livre.
Voilà. Ça veut dire qu'il y a le livre d'une part, la littérature d'autre part. Mais partout dans le monde, ce n'est pas une raison pour se rallier à ce courant-là. On voit que le livre n'est pas prêt de disparaître, mais que la part de la littérature est de plus en plus congrue. Pas une raison pour faire pareil.
Oui, bonjour. D'abord, je m'adresse aux chroniqueurs. Je dois vous remercier. Grâce à vous, j'ai découvert un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Calais. Ah. Et je pense qu'en quelque part, il rejoint un peu votre façon de voir les choses, la mélancolie, etc. Je pense que le rapport à l'écriture change beaucoup de génération en génération. Tantôt, je vous ai entendu dire que par rapport à la vie, vous écriviez davantage plus de billets, que vous ne cédiez pas à la tentation de l'autofiction qui est assez à la mode aujourd'hui. Ma question serait celle-ci, vous qui avez tant écrit, tant lu, choisit-on le genre de livre qu'on écrit?
Les hasards de la vie font qu'on ne choisit pas, au début en tout cas, le genre de livre qui nous convient, mais je pense qu'une personne... Parce que l'une des caractéristiques du monde dans lequel on est, c'est qu'on est super informé. Il est à peu près impossible de ne pas savoir que de bons écrivains existent. Et si on n'est pas tombé, mettons, à 30 ans, sur un écrivain qui nous convient, qui nous donne des tentatives de réponse à nos angoisses, c'est que vraiment on est malchanceux ou malhabile. Moi, je crois ça. Je crois forcément, dans la même mesure que je ne crois pas qu'il y ait des écrivains complètement inconnus. Là. Il y a des écrivains méconnus, mais des écrivains qui n'ont pas réussi à se faire publier. Ça peut exister, mais d'après moi, ce n'est pas courant. C'est presque impossible à imaginer. Je pense donc que si on cherche, on trouve, et qu'on peut trouver les moyens. Vous savez, vous me dites que vous avez pu lire Henri Calais parce que j'en ai parlé. Bon, c'est par hasard que vous avez entendu parler de ça, mais les hasards, il y en a. Il y a mettons, Jacques Poulain qui parle d'Hemingway. Hemingway, tout le monde le connaît, mais si Poulain dit qu'il a aimé Hemingway, c'est qu'il dit aux gens, Hemingway, c'est pas seulement l'amateur de boxe et de toréador, l'alcoolique, le frondeur, et puis tout ça, c'est quelqu'un qui a une sensibilité. C'est pour ça que je pense qu'on finit toujours par trouver des gens qui nous conviennent. Moi, je dis qu'à 74 ans, qui est mon âge actuel, j'espère ne pas mourir avant de découvrir des écrivains dont je ne connais que le nom, mais qui me conviennent. Vous avez parlé d'Henri Calais tout à l'heure. Ce que Antoine Blondin a dit à la mort d'Henri Calais convient tout à fait au genre d'écriture que je cherche à avoir. Il disait d'Henri Calais, il regardait passer les... comment on appelle ça dans les foires?
Les manèges.
Les manèges. Il regardait passer les manèges et il savait qu'il n'était pas fait pour, il n'était pas fait pour lui. Quelque chose comme ça. Moi, j'essaie de décrire des personnages qui voient le bonheur, qui le conçoivent, mais qui ne l'ont pas reçu dans leur vie ou qui n'ont pas su le retenir. Et c'est pour ça que, pour revenir à votre question, on finit toujours par trouver des écrivains qui ont sa sensibilité. Parce que si vous cherchez des écrivains qui parlent au plus proche de leur être, vous allez finir par trouver des gens dont l'intimité est la vôtre. Ça ajoute au côté forcément discutable de l'option de Radio-Canada de ne pas faire ce qui ressemble à de la gratuité. On peut, d'après moi, parler de Ravel à 100 personnes que ça n'intéresse pas, si la 101e, ça l'intéresse. Il y aura toujours possibilité qu'il y en ait 4 ou 5 autres qui mordent à l'invitation qu'on lui fait.
Et pourtant, vous savez que une des définitions de la création, c'est justement sa gratuité, précisément.
Ah, c'est bien évident. Écoutez, écrire, surtout, écrire un roman, il n'y a rien de plus gratuit. Au début en ce moment précis, de Buzzati, il dit, ce n'était pas vrai, évidemment, je n'ai qu'un bout de papier et un petit morceau de crayon, tout éméché, et pourtant, aujourd'hui, j'écris. C'est ça, l'écriture, il n'y a rien de plus gratuit. Personne ne vous attend. Le Québec va continuer de tourner si vous n'écrivez pas. Pourtant, vous écrivez. Shakespeare a existé, Faulkner a existé, Stendhal a existé, puis vous faites votre petit roman. Si ce n'est pas ça de l'optimisme, je me demande bien ce que c'est. C'est un besoin, c'est vraiment un besoin. Ça peut être un cliché de le dire, mais c'est un besoin. Estimable ou non, il y a des gens qui écrivent par pure fatuité, mais ils s'en trouvent parmi ces gens-là qui écrivent des chefs-d'œuvre.
Mais finalement, ça se résume finalement, au bout du compte, à la phrase qu'on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement.
Voilà. Parce que ça nous permet de croire, à tort ou à raison, participer d'un monde qui n'est pas celui qui, malgré tout ce qu'il fait, le monde, nous déçoit. Et il nous enthousiasme en même temps. Hein. Les pessimistes purs et durs, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec eux. J'aime mieux des gens qui sont profondément pessimistes, mais qui sont optimistes sur fond de pessimisme.
Alors, comme vous voyez, Gilles Archambault pourrait maintenant commencer une conférence tout seul. Je pourrais me retirer. Si vous avez une question encore, ce sera la dernière. Sinon, on va conclure ici, se dire au revoir, vous remercier infiniment, remercier Gilles Archambault. Et puis, je vous recommande donc son dernier livre, Pour Noël ou pour un autre moment, Les rives prochaines chez Boréal. Et puis, bien sûr, tous ces livres qui sont derrière nous, qui ne sont pas juste les siens, pardon, je suis en train de voir qu'il y a des livres de... Mais en tout cas, à retrouver Gilles Archambault là où il se trouve, dans ses livres. Et nous sommes dans une bibliothèque, la grande bibliothèque, donc vous pouvez aller le chercher, lire et relire ses ouvrages. À très bientôt et merci beaucoup.
Écoutez, merci beaucoup Aline de cet accueil plus que chaleureux. Hein? Merci. Je prends la moitié des compliments que vous m'avez donnés et je vais m'en faire mon miel pendant plusieurs jours. Merci à vous d'être venu ici pour entendre un vieux schnock, lequel vous remercie beaucoup et je pèse mes mots. Je sais que c'est pas évident de prendre 2 heures de son temps pour entendre quelqu'un parler d'une chose qui le concerne, ses livres. Vous êtes très patient et... merci beaucoup, ça me touche. Je fais des blagues, là, mais c'est parce que je ne veux pas être trop touchant.
Et puis, en fait, je voudrais dire que c'est aussi parce qu'on parle de ça, mais c'est le dernier lieu en ville actuellement où on peut faire ça.
C'est
on
vrai.
Peut venir, justement, écouter un écrivain pendant 2 heures. Alors, voilà.
Soyez-en remerciés.
Merci.
Merci beaucoup.